voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Cette question dans notre grand rendez-vous ce soir, le président Tshisekedi a-t-il désormais les pleins pouvoirs et les mains libres pour appliquer son programme politique ? Nous en débattons juste après Décryptage sur l'Égypte.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Hasni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, CERMAM. Il y a 10 ans, les Égyptiens mobilisés pendant plusieurs jours à la place Tahrir, au Caire, contre le pouvoir de Hosni Moubarak, obtenaient son départ du pouvoir. Quels sont les principaux changements observés 10 ans après ?
Malheureusement, les changements, les mobilisations sociales ont certes abouti au départ de Hosni Moubarak et aussi au départ de certaines figures de l'ancien régime, mais ce système, dominé par l'armée, il est toujours là. L'armée a conduit une transition chaotique avec une élite politique qui n'est pas du tout enthousiaste au changement. Aujourd'hui, le bilan sur le plan, d'abord sur le plan des libertés publiques et privées, n'est pas du tout réjouissant. Et certes, l'Égypte a retrouvé un semblant de stabilité, mais les résultats économiques aussi tardent à venir. On peut dire que c'est un bilan à demi-teinte dans la mesure où l'Égypte n'a pas sombré, comme certains le craignaient, dans cette spirale islamiste. Et en même temps, le retour de l'armée, beaucoup plus important qu'avant, n'arrange pas les choses des Égyptiens sur le plan économique et sur le plan politique.
Mais pourquoi l'Égypte semble toujours, malgré tout, avoir le soutien des pays occidentaux ?
Écoutez, on peut vraiment dire que l'Égypte reste une bombe à retardement. C'est une menace pour les Égyptiens, mais aussi pour les voisins, parce qu'on sait que l'Égypte est sous perfusion économique de la part de certaines monarchies du Golfe, qui ne veulent surtout
L'Arabie
pas...
L'Arabie Saoudite, en tête ?
L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, ce sont des États qui ne veulent surtout pas d'alternative, en tout cas, au régime de l'armée. Et on sait que l'armée, elle est revenue encore plus fort que sous Moubarak. L'armée contrôle une partie importante de l'économie égyptienne, de l'économie locale, mais aussi, comme vous le savez, l'armée reçoit environ 1 milliard de dollars d'aide économique de la part des États-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme, mais surtout parce que l'Égypte joue ce rôle de garant des frontières entre Gaza et l'Égypte.
Est-ce que la position du Caire sur la crise israélo-palestinienne, que certains jugent assez timide ou plutôt floue, favoriserait ce soutien occidental, notamment des États-Unis, au pouvoir égyptien ?
Mais écoutez, on peut dire que le maréchal Sisi était le candidat favori de Tel Aviv, le candidat favori aussi de Benjamin Netanyahu et probablement de l'administration américaine qui place plutôt la stabilité de la région, la stabilité sécuritaire, les intérêts d'Israël et les intérêts de l'armée égyptienne, partant de l'idée que l'armée est la seule institution stable et disciplinée en Égypte. Oui, la stabilité, mais aussi l'institution militaire, sont des priorités pour à la fois Washington et pour aussi Israël et les monarchies du Golfe. Et d'ailleurs, cette question, elle est liée à la précédente, c'est-à-dire pourquoi on ne veut pas lâcher le pouvoir des militaires et on ne veut pas lâcher le maréchal Sisi, parce qu'il y a toujours cette peur d'un islamisme politique. Mais on peut dire que la présidence de Morsi, élue, il faut le rappeler, lors d'un suffrage universel, et sa mort aussi, sa mort dans une cellule, reste un point noir dans l'histoire des démocraties occidentales et leur attitude. Oui, l'attitude timide et parfois même conciliante de l'Occident a été perçue par le Caire comme un encouragement dans sa politique répressive, dans le tout sécuritaire. Et on voit bien aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement de militants proches des frères musulmans, mais aussi on a des milliers de militants de droits de l'homme. Nous avons des opposants qui n'ont rien à voir avec la mouvance islamiste, des journalistes, des avocats, des médecins, des activistes qui sont en détention sans le moindre procès. Même aujourd'hui, il y a encore des acteurs de la société civile qui sont en train de travailler pour justement un changement graduel. Il y a des ouvertures.
Mais de quels moyens disposent-ils aujourd'hui ces partisans de la démocratie, ces défenseurs des libertés pour se faire entendre ?
se faire entendre à l'intérieur, mais passe aussi par l'extérieur. On a bien vu que, par exemple, le discours de Joseph Biden a eu des effets directs sur la politique menée dans un autre pays, qui est l'Arabie Saoudite, et en Égypte aussi. Le Caire redoute un changement de cap de l'administration américaine, qui est un peu plus attiré par, justement, les valeurs démocratiques que l'administration précédente. Et on sait, parce que l'Égypte, beaucoup plus que d'autres pays, elle est dépendante de cette économie, de cette aide internationale, de ce qu'on appelle l'acceptabilité internationale, du côté surtout américain, pas du côté français. On sait que les relations sont excellentes entre Paris et le Caire.
Mais au-delà de cet aspect de répression reproché au président Al-Sisi, n'y a-t-il pas quand même des avancées qui ont été obtenues en 10 ans après la chute de l'ancien président Moubarak?
Au dire des Égyptiens eux-mêmes, les avancées sont très, très, très limitées. On a vu, par exemple, l'introduction de certains quotas au niveau de Parlement, mais au niveau de certains postes importants, des quotas destinés aux minorités, surtout la minorité chrétienne, copte, mais aussi des quotas pour les femmes aussi. On a bien vu qu'il y a une lutte acharnée du pouvoir contre toutes les violences faites aux femmes. Il y a une féminisation dans la gestion et dans la gestion politique du pays, mais on sait que cette féminisation aussi, malheureusement, est destinée à l'étranger pour dire, voilà, le pouvoir militaire a pris conscience de l'importance de protéger des femmes. Mais cette protection, elle passe surtout par, d'abord, la législation. Or, que sur le côté de la législation, rien n'a été fait.
Hassni Abidi, merci beaucoup.
Merci à vous.
Politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, CERMAM, à Genève, en Suisse.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et il est 18h, bientôt 15, à Paris et à Kinshasa. Nous parlons ce soir de la RDC, l'Union sacrée, le nouveau bloc politique recomposé voulu par le président Tshisekedi. Lui permettra-t-il de construire la RDC qu'il souhaite? Aura-t-il désormais donc les mains libres pour mettre en œuvre sa politique? Nous en débattons ce soir avec 4 invités, 3 sont déjà en ligne. Il s'agit de Francis Kalombo, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi. Monsieur Kalombo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne de Kinshasa et nous retrouvons également à Kinshasa le professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Bonsoir, professeur Tshilumbayi.
Bonsoir, madame. Bonsoir à maître confrère Francis Kalombo.
Merci. Vous êtes rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, et également enseignant de droit et de relations internationales à l'université de Kinshasa. Et à Paris, Kodjo Doukouma, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes cadre du FCC, le Front commun pour le Congo, de l'ancien président Joseph Kabila, et en ligne de New York aux États-Unis, Fred Boma. Bonsoir, monsieur Boma.
Bonsoir, madame.
Militant de la Lucha, lutte pour le changement, une organisation de la société civile. Le président Tshisekedi a donc réussi à mettre en place l'union sacrée qu'il souhaitait. Monsieur Jean-Claude Tshilumbayi, il a désormais la main mise sur l'Assemblée nationale. Il a obtenu la chute du Premier ministre et également la démission du président du Sénat. Est-ce que le président Tshisekedi a atteint son objectif? Est-ce qu'il est désormais le seul commandant à bord du navire RDC?
Non, d'abord, madame, il faut dire que ce n'est pas ça l'objectif du président Tshisekedi, d'être le seul commandant à bord, d'avoir la mainmise sur les autres institutions, mais plutôt d'avoir avec lui un cadre institutionnel respectueux de la Constitution de la République qui permet à chacun de jouer son rôle. Donc ici, il n'est pas question de dire que le président a la mainmise, mais plutôt les députés qui sont membres d'une institution ont résolu de changer leur bureau compte tenu des difficultés qu'ils ont constatées, notamment dans le dysfonctionnement imposé par une famille politique qui n'a pas permis au pays de s'éclore, de devoir réaliser les objectifs que nous sommes tous assignés à l'issue du scrutin de 2018. Donc, ici...
Oui, professeur, si vous dites que l'objectif du président Tshisekedi n'était pas d'avoir la mainmise, mais est-ce qu'il n'était pas tout au moins d'avoir le contrôle de tous les leviers du pouvoir pour éviter la répétition du scénario qu'on a observé lorsque il était en alliance avec le FCC?
Le contrôle de tous les leviers du pouvoir, ce n'est pas le président Tshisekedi qui l'a cherché, c'est l'architecture institutionnelle que nous avons construite avec la Constitution de 2016. Cette Constitution qui a pour vie le chef de l'État des pouvoirs énormes, lorsque vous la lisez, elle confère quelques occupations au Premier ministre, mais tous les pouvoirs de l'État, la Constitution les a dévolus au président de la République. C'est bien évidemment que les partenaires que nous avons connus dans cette première moitié des mandatures ne l'ont pas compris, ou tout simplement ils ont voulu truander la réalité avec laquelle ils se sont satisfaits depuis le début du fonctionnement de cette Constitution. C'est que tout simplement le président de la République a voulu leur rappeler. À ce jour, il est bien évidemment clair que le Parlement devra jouer son rôle et que le chef de l'État devra jouir de ses pouvoirs tout simplement constitutionnels. Je dis bien des pouvoirs constitutionnels.
Merci beaucoup.
Dévolu notamment par les articles 69 de la Constitution de la République, 92 de la Constitution, qui lui permettent de partager le pouvoir réglementaire avec le Premier ministre.
Merci, professeur Tshilumbayi. On va permettre de faire un tour de table. Monsieur Ndoukouma, est-ce que vous avez la même lecture de cette union sacrée que vient de dire monsieur Tshilumbayi? Est-ce que pour vous aussi, l'union sacrée ne vise pas à contrôler le pouvoir, à permettre au président Tshisekedi de contrôler le pouvoir?
Bon, je salue les compatriotes, le prof Tshilumbayi et puis maître Francis Kalombo et le compatriote de New York. Mais simplement, il faut s'assumer. Il faut bien assumer le fait qu'il y a eu des élections qui ont donné vainqueur le président Tshisekedi et qu'il y a eu des élections au niveau législatif qui ont donné une majorité au FCC. Il faut également assumer le fait qu'au début, le mode de gouvernance choisi aussi bien par l'UDPS, l'UNC qui formait le CASH avec le FCC, c'était une coalition. Mais il faut également assumer le fait que le changement qu'il y a eu dans la reconfiguration de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas le fait du hasard. Il y a eu des personnes du côté de CASH qui ont poussé à cette reconfiguration de la majorité. Et maintenant que cette majorité a été reconfigurée, il faut bien assumer que ce n'est pas le fait de Dieu, mais que c'est vraiment le fait du prince qui a fait que les députés du PPRD, par exemple, qui étaient ceux liés au président Kabila, puissent connaître comme ça des transfuges d'à peu près une trentaine de personnes.
D'accord, mais quel est l'objectif de cette reconfiguration? À quoi?
Oui,
c'était ça la question.
Voilà, mais on revient d'abord sur les faits pour que les gens comprennent bien. Mais là, je réponds directement en disant il faut assumer le fait que le CASH s'est probablement senti à l'étroit dans la façon dont les pouvoirs étaient répartis. Vous avez le président Tshisekedi à la tête du pays, vous avez Madame Mabunda à l'époque à l'Assemblée nationale et le président de l'époque qui était Tambwe Mwamba au Sénat. Et ces deux personnalités citées de l'Assemblée nationale et du Sénat semblaient faire le contrepoids au président Tshisekedi. Et il y a eu une rhétorique qui a été développée de dire que le FCC bloquait les actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Et donc, il fallait en ce moment-là contrôler à la fois la présidence de la République, la majorité au Parlement, ainsi que contrôler le Premier ministre. Et c'est pour cela qu'il a été fait de sorte qu'il y ait un informateur qui soit nommé, qu'il y ait un Premier ministre, Ilukamba, qui dépose sa démission après une motion de défiance, et ainsi de suite. Donc, le but est d'avoir le pouvoir à la fois de l'exécutif et le pouvoir législatif pour gérer le pays probablement jusqu'en 2023.
Merci.
C'est ça le but.
D'accord.
Et il ne faut pas le cacher, il faut assumer.
Et on verra bien si les uns et les autres ici présents pensent que ce bloc tiendra jusqu'en 2023. Je voudrais qu'on écoute Francis Kalombo du mouvement Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Monsieur Kalombo, vous êtes là ?
Oui, je suis là, merci.
Voilà, le bloc FCC, dont il y a eu divorce entre FCC et CASH, qui a donné lieu à cette union sacrée. Le président Tshisekedi a-t-il donc désormais les pleins pouvoirs pour dérouler son programme politique comme il le souhaite ?
Bien sûr, c'est sûr qu'avec, vu la configuration actuelle, vu ce que lui-même a appelé l'union sacrée, ben, les Congolais se sont retrouvés autour de cette union sacrée avec ça comme objectif, c'est-à-dire donner au président de la République une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, et aussi, bien sûr, qu'il y aura un nouveau gouvernement avec des hommes et des femmes pour lui permettre cette fois-ci de mettre, lui-même l'a dit, et il a compris qu'avec le FCC, on le tirait vers le bas, ça ne marchait pas, et la population aussi était devenue contre cette union, et je pense que le bon sens a fait que ils ont compris qu'avec un leadership, l'ex-président de la République, qui faisait comme une sorte de paix, qui était effectivement une sorte de pesanteur pour pas que les choses avancent, parce que pour le FCC, c'est comme s'ils ont donné, un pouvoir à quelqu'un et que la personne devait échouer pour qu'eux reviennent aux affaires en
2023.
En 2023. Donc, aujourd'hui, l'objectif est là, c'est que le président de la République veut laisser ses marques en République démocratique du Congo. Et il ne voit pas aujourd'hui, puisque l'Union sacrée, ce n'est pas 2023. L'Union sacrée, c'est maintenant. Le Congo doit être géré maintenant, mais très bien géré maintenant, pour espérer qu'en 2023, on continue à nous faire confiance. Si nous échouons aujourd'hui, eh bien, en 2023, ça ne servirait à rien. Voilà pourquoi le président Félix pense d'abord aujourd'hui. Il ne pense pas 2023, mais il pense aujourd'hui le bien-être. Il a un programme, il a une vision. Eh bien, il a fait appel aux uns aux autres pendant la consultation. Le Congolais qu'il a consulté lui ont dit ce qu'il pensait de leur avenir, ce qu'il pensait pour le Congo de demain. Et là où nous sommes en train de parler, je crois qu'il y a toute une équipe qui est en train de mettre en place ses futurs programmes suite aux consultations que le président de la République a dû faire pour que ce soit un programme adopté et voulu par la population congolaise. Donc, c'est vrai qu'il a un boulevard aujourd'hui, c'est vrai qu'il a une majorité, et qu'avant, ce n'était pas une majorité dont les gens se reconnaissaient en lui. Il n'était pas le chef de cette majorité. Mais aujourd'hui, il est le chef de cette majorité qui s'est formée autour de sa personne, et ben, pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Et je pense que si c'est vraiment ça le souci du président de la République, et je le crois, et je pense que les choses vont avancer. Mais non, les hommes et les femmes qui sont venus dans l'Union sacrée, certes, il y a des uns qui sont sincères, il y en a qui sont des hypocrites, des tartuffes, qui seront démasqués, mais au fait, la volonté y est de la part du président de la République pour faire autre chose. C'est ce qui a toujours été fait pendant toutes ces années.
Merci beaucoup. Fred Boma, la société civile avait salué en son temps la démarche du président Tshisekedi de rechercher cette union sacrée. Est-ce que pour vous aujourd'hui, cette union sacrée va lui permettre de se consacrer véritablement à la mise en œuvre de son programme et au développement de la RDC comme le souhaite la société civile ?
Merci beaucoup, madame. Je pense qu'il est important de rappeler quand même quelques éléments de contexte qui nous fait arriver dans cette situation. Le premier élément, c'est que l'institution telle que configurée en ce moment, dans l'actuelle configuration, sont issues des élections de 2018, des élections qui ont été largement critiqués, y compris d'ailleurs par l'IDPS qui critique le fait qu'ils n'ont pas gagné la majorité au Parlement à cause de ces manipulations. Mais on sait plus ou moins, c'est assez bien documenté comment les uns et les autres sont arrivés au pouvoir. Et dès le départ, la société civile critiquait ce qu'on avait qualifié à l'époque d'une coalition contre nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les deux années passées, on a vu que la gestion quotidienne du pouvoir s'est résumée plus ou moins à des disputes entre
les deux alliés.
L'opposition à l'époque ne parlait presque plus. puisqu'il y avait tellement de disputes entre les gens de l'IFCC et leurs alliés du cash. Ces disputes-là ont conduit à une situation quasiment de blocage.
Je suis désolé de vous interrompre, Fred Boma. On va devoir marquer une pause et vous allez terminer vos éléments de contexte juste après cette courte interruption.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et le président Tshisekedi a-t-il désormais les mains libres pour appliquer son programme politique en RDC? Nous en débattons ce soir avec Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, Jean-Claude Tshilumbayi, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, Kodjo Ndoukouma, cadre du FCC, et Fred Boma, militant de la Lucha. Nous allons vous donner la parole à nouveau. Monsieur Boma, vous parliez avant la pause des éléments du contexte et vous en étiez à ce blocage politique de l'alliance Cash-FCC. Avant de vous redonner la parole, j'aimerais que s'il vous plaît qu'on essaye d'être concis parce que les éléments du contexte, nous les avons déjà, je pense. Il faut aller droit au but, messieurs. Alors, monsieur Boma, vous terminez vos propos?
Oui, donc très rapidement, le deuxième élément, ce qui a été blocage là, et le troisième élément, c'est que pour sortir de ce blocage, le président a appelé à une union sacrée. Maintenant, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est que le président a réussi à renverser le rapport de force avec ses anciens alliés, et on peut dire qu'il a aujourd'hui, contrairement à il y a un an, un parlement et il aura un gouvernement qui lui sont complètement favorables. Ce qui nous intéresse plus, nous, de la société civile, c'est de voir les actions que le président fera maintenant qu'il est seul maître à bord avec tous les éléments de pouvoir dans sa main.
Donc, à quoi va lui servir cette union sacrée?
Voilà. Donc, j'ai entendu dire de mon aîné Francis Kalombo que le président avait un programme qu'il allait l'exécuter. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de programme. On ne sait pas c'est quoi ce programme-là. L'Union sacrée, je mets au défi quiconque là de le dire, l'Union sacrée n'a pas encore de programme. L'Union sacrée est une union jusque-là qui est basée sur une idée de libérer, on va dire, le président de l'influence qui les gênait de ses anciens alliés. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème quotidien des Congolais qui porte sur la santé, qui porte sur l'économie, qui porte sur le problème sécuritaire à l'Est. Et ce qui intéresserait les Congolais, c'est de savoir exactement comment concrètement le président veut utiliser cette nouvelle configuration pour répondre
cette nouvelle majorité qui lui donne le plein pouvoir, dites-vous. Professeur Tshilumbayi, est-ce que vous pouvez répondre brièvement aux observations faites par les autres intervenants, et notamment la dernière de M. Boma, sur le fait qu'il n'y a pas de programme au niveau de l'Union sacrée, pas de lisibilité?
Non, d'abord, il faut dire que j'ai suivi le professeur Kodjo, que je salue, hein. Lorsqu'il dit qu'il y avait une majorité FCC et puis un président UDPS, il dit non, ça n'a jamais été comme ça. Le FCC n'a jamais été aux élections pour qu'il réalise une majorité. Il y a des partis politiques qui ont été aux élections de manière individuelle, qu'aucun parti n'avait réalisé la majorité au Parlement. Ce qui justifie que la reconfiguration de ce jour, qui est tout à fait constitutionnelle, qui est le fait que certains partis politiques qui avaient coalisé avec d'autres dans cette nébuleuse qu'on a appelée FCC ont trouvé que c'était une vision macabre qu'ils n'ont plus accompagnée, et puis c'était de leur liberté, ce que la Constitution n'interdit pas du reste, de se désolidariser. Donc il n'y a jamais eu une majorité FCC. Le FCC n'est pas un parti politique, moins encore un regroupement au terme des lois qui nous régissent. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que je salue Fred lorsqu'il dit que l'Union sacrée n'a pas de programme. C'est tout à fait raisonnable qu'une coalition qui s'est créée tout de suite là ne pouvait pas avoir de programme. Mais je peux donner des garanties à Fred qui a un programme qui travaille, plutôt un panel qui travaille sur
le programme prioritaire.
Donc, ce panel va d'abord travailler sur le programme de l'Union sacrée et après, il sera déroulé de façon libre par le président Tshisekedi.
Bien évidemment, c'est sous l'impulsion du président, sous son encadrement, qu'un panel de haut niveau s'est concentré pendant tout ce temps à travailler sur le futur programme de cette gouvernance non conflictuelle qui s'ouvre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La coalition contre nature, là, je suis d'accord avec Fred, elle l'était par rapport au fait que c'est notre peuple qui nous l'avait imposé et que ce peuple avait ainsi dispersé son vote de sorte qu'aucun parti n'ait réalisé la majorité à l'Assemblée nationale, qu'on ne pouvait pas gouverner autrement si on ne pouvait pas faire des coalitions. Merci. C'est là que je donne précisément raison à Maître Francis Kalombo lorsqu'il souligne avec pertinence que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que le président de la République aura plus ou moins les mains libres parce que...
Une plus grande marge de manœuvre.
Oui. L'actuelle coalition se forme de manière claire autour du chef de l'État et que les députés qui ont attentivement lu notre constitution, qui ont compris pertinemment que la constitution n'ouvrait aucune possibilité de cohabitation, aucune possibilité de fonctionner dans la marginalisation du chef de l'État, ont pris conscience de la réalité parce que merci. L'intérêt du peuple, l'intérêt général de notre communauté l'exige. Ils sont à ce jour dans cette démarche.
Je merci crois beaucoup. Que
c'est une démarche qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette législature et les résultats seront palpables.
Merci, professeur Tshilumbayi. Nous vous remercions aussi par avance de vous éloigner du bruit qui interfère et qui gêne un peu la qualité d'écoute de votre intervention. Monsieur Doukouma, quel rôle compte jouer le FCC désormais avec cette nouvelle configuration qui donne plus de pouvoir, plus de marge de manœuvre au président Tshisekedi de dérouler son programme?
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de majorité en cours de législature. Déjà, le FCC, c'est vrai, c'est un regroupement de fait, hein, ce n'est pas une majorité électorale, c'était une majorité constitué sur base des résultats électoraux glanés par chacun des partis ayant composé cette mosaïque. Mais seulement, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait demandé que lorsqu'on fait un choix de déclaration politique à l'opposition ou à la majorité, que ce choix demeure pour les 5 années. Donc du coup, les règles du jeu ayant été changées grâce également à la Cour constitutionnelle pendant la législature, il y a aujourd'hui une majorité formée des députés dont le mandat, soi-disant, n'est pas impératif. Et il y a aujourd'hui ceux qui sont restés dans les FCC qui seront une minorité. Alors, qu'on parle de résistance, ça c'est peut-être un slogan partisan. Bon, on ne résiste pas contre un envahisseur ni contre un agresseur. Mais je pense que le terme politique qui va pouvoir épouser le comportement du FCC, c'est le terme opposition. Parce que l'opposition, selon nos lois en République démocratique du Congo, c'est le regroupement, le groupe politique qui ne participe pas à l'exécutif national.
Donc vous allez maintenant rester dans l'opposition et constituer un contre-pouvoir au président Tshisekedi ou à la nouvelle majorité de l'Union sacrée?
Oui, je cite par là Kabange Numbi qui était dans la cellule de crise hein, mise en place au sein du FCC par rapport à tous les changements qu'il y avait. Je cite également Kika Yabin Karoubi. C'est une situation de fait qui aujourd'hui devient évident, devient indéniable. Mais simplement, il faut faire les choses dans les règles républicaines.
Merci.
Nous nous sommes rendus compte, et je finis par là, une phrase, que du côté UDPS, du côté aujourd'hui Moïse Katumbi et les autres, ils sont dans la reconfiguration politique alors que nous évoquons la rationalité juridique de la Constitution de 2006. Voilà.
Vous estimez que vous restez constant. Alors, Monsieur Kalombo, vous venez d'entendre le cadre du FCC dire qu'ils vont rester dans l'opposition républicaine. Et le FCC pourrait donc être un des obstacles à la mise en route du programme du président Félix Tshisekedi. Mais vous estimez qu'il est désormais le seul commandant en chef. Est-ce que cela veut dire que, à partir d'aujourd'hui, le président Tshisekedi sera comptable de tout échec ou de tout succès des actions du pouvoir, des actions gouvernementales?
Merci, mais je crois que je voulais d'abord corriger une chose. Tout à l'heure, Fred parlait du programme. Mais quand vous lisez la Constitution, le programme est déterminé par le président de la République et le Premier ministre. Donc on ne peut pas aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore un Premier ministre, avoir déjà un programme. Mais j'ai dit bel et bien qu'il y a une équipe qui est en train de réfléchir et de travailler pour que le rapidement, quand le Premier ministre sera choisi par le président de la République, eh bien, il viendra avec un programme et ce programme sera défini entre lui et le président de la République. C'est en ce moment-là qu'on verra qu'est-ce que l'Union sacrée veut faire pour le Congo de demain. Mais,
et vous êtes convaincu que tout le monde au sein de l'Union sacrée travaillera de manière consensuelle pour la mise en route de ce programme gouvernemental?
Ben, vous savez, la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. S'ils sont animés de bonne volonté, ils feront changer, mais le programme doit tourner autour de tout ce que le président a pu récolter pendant la consultation. On lui a amené des programmes, des projets, ainsi de suite, et il a eu à tamiser et à réfléchir. C'est autour de ça que nous verrons. Et maintenant, pour répondre directement à votre question, et d'abord, je voulais aussi corriger mon frère Kojo. La loi, même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ne dit pas que lorsque vous êtes dans l'opposition, vous devez y rester. Et d'ailleurs, la loi sur l'opposition politique, dans son article 4, est claire. Lorsque vous entrez dans un gouvernement, eh ben, le parti politique qui rentre dans un gouvernement quitte, cesse d'être dans l'opposition. Donc, ça, c'est prévu qu'en quittant, on cesse d'être. Et lorsque d'autres quittent et ils passent dans l'opposition, effectivement, c'est comme aujourd'hui, avec la plupart des partis politiques qui composaient le FCC dans l'OTAN, eh ben, et aujourd'hui, ils seront dans l'opposition. Mais non.
Revenons-en à ma question rapidement, Monsieur Colombo. Est-ce que le président est désormais ou sera désormais comptable de l'action gouvernementale, du bilan, à partir du moment où il mettra en place un Premier ministre et son gouvernement? Ben, puisqu'il a désormais la majorité.
Il était comptable depuis qu'il a été élu. Et je crois que Moïse Katumbi l'a fait rappeler au président de la République qu'en 2023, c'est son bilan qui sera jugé. Donc depuis qu'il a été élu, jusqu'aujourd'hui, il a fait passer deux années très, très difficiles. Et les Congolais devront tenir compte de ça aussi, qu'en dehors de pandémie, en dehors de tout ça, on lui a mis les bâtons dans le roue. On l'a empêché de faire développer son programme. Eh bien, aujourd'hui, c'est à lui de montrer que
merci.
Maintenant qu'il a le main libre, il doit faire en sorte qu'on puisse sentir qu'il y a un changement et que demain, il puisse être comptable. Il est tout à fait normal. Il va présenter un bilan pendant les 5 ans, au bout duquel il dira, pendant 2 ans, j'ai mal travaillé parce que je n'avais pas la majorité, mais les 2 autres années ou les 3 autres années, voilà, je puis avoir la majorité, voilà ce que je peux
merci
faire.
Merci beaucoup, M. Kalombo. M. Kalombo, pardon de vous interrompre, d'autres personnes doivent s'exprimer. M. Boma, est-ce que cela veut dire que vous serez plus sévère au moment de l'appréciation du bilan du président Tshisekedi, sachant que désormais, pour vous, vous estimez qu'il s'est affranchi de cet obstacle FCC qui l'empêchait de travailler, de mettre en place son programme?
Je pense qu'il faut dire qu'on les jugera en fonction de ce qu'il aura accompli. Et je pense que nos co-débatteurs ici savent qu'on est quand même très objectif quand il s'agit de juger nos gouvernants. Une chose qu'il faut reconnaître, c'est que maintenant qu'il a les mains libres, je pense que ça rend clair la redevabilité, parce qu'on sait qu'on va juger le président de la République lui-même et il n'aura pas à dire que ses alliés l'ont empêché de...
Il n'a plus d'excuses.
Exactement. Il faut cependant dire que le président de la République a un mandat de 5 ans. Et ce mandat-là, pendant ce mandat, il sera jugé pour les choix politiques qu'il aura fait et pour les actions qu'il aura fait. Parmi ces choix-là, il y a le choix de se mettre en alliance avec les FCC pour créer une coalition. C'est un choix qu'il a fait, on pourrait dire par contrainte ou pas, mais c'est un choix qu'il a fait et les conséquences ont été désastreuses pendant 2 ans. Et donc, ça fait partie de son mandat de 5 ans. Lorsqu'il viendra 5 ans plus tard, en 2023, il sera comptable pour les 2 ans qu'il a passé avec les FCC. Il sera aussi comptable parce que c'était une coalition, pas une cohabitation. Et il sera aussi comptable de 3 ans. Et je pense qu'il a 3 ans pour montrer aux Congolais qu'il a réellement le moyen de livrer ce qu'il ne cesse de nous promettre depuis 5 ans. Mais je le souhaite que les 3 dernières années soient
le meilleur et ce ne sera que pour le bénéfice de tous les Congolais.
Merci beaucoup, Fred Boma. On va marquer une dernière pause, messieurs. On se retrouve pour conclure ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
En RDC, quelle sera la suite après la mise en place de l'union sacrée voulue par le président Tshisekedi? Et a-t-il désormais un boulevard devant lui pour exécuter son programme politique? Nous en débattons ce soir avec quatre invités. Fred Boma, militant de la Lucha, Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi, Jean-Claude Tshilumbayi, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS au pouvoir, et Kodjo Doukouma, cadre du FCC. Et nous retournons à vous, Monsieur Tshilumba. Il y a Martin Fayoulou de la Mouka qui estime que le président Tshisekedi n'a pas tant les mains libres que ça, et il évoque notamment l'intrusion, dit-il, et la trop grande proximité entre Félix Tshisekedi et l'ambassadeur des États-Unis, ou plus simplement et les États-Unis. Est-ce que c'est un aspect qui pourrait entraver l'action du président Tshisekedi?
Non, Martin Fayoulou, en fait, c'est un politique désespéré. Moi, je comprends sa peine. Après que le porte-monnaie ait été retiré, que la caution populaire lui conférée par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba lui soit retirée, ça c'est un choix, c'est en fait un cri de détresse. Je n'ai pas trop à insister sur ça.
Donc mais vous pensez que c'est un aigri, il est aigri?
Bien évidemment. Lorsque Fred assimile dans le bilan du président le choix de se mettre ensemble avec le FCC, mais non, Fred. Le FCC, le choix de se mettre ensemble avec le FCC, c'était le choix de notre peuple qui n'a donné la majorité à aucun parti politique, parce qu'aucun d'entre nous n'a atteint la barre de 70 députés. Donc, il était absolument qu'au regard de prescrire l'article 78 de notre constitution, qu'une coalition s'est constituée pour diriger le pays. Donc ça n'a pas été le choix pour le président de la République, parce que il n'en irait pas autrement, il n'y avait pas autre possibilité que ça, tant que la plupart de ces partis qui avaient suivi cette nébuleuse du FCC étaient là, il fallait en tenir compte. Le professeur Kodjo parle du règlement intérieur, nous sommes déjà très loin par rapport à cette réalité. Le règlement intérieur, article 26, lorsqu'il évoque la question de la déclaration de la majorité, c'est pour une finalité, c'est pas pour construire la coalition prévue par l'article 78 de la Constitution, mais plutôt pour partager les postes au bureau de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater ce que dit notre Constitution sans autre forme de procès, et qu'il ne peut pas qualifier cette situation que vit le FCC aujourd'hui des situations de fait, c'est une situation de droit, parce que notre Constitution de la République ne l'interdisant pas, et il n'y a pas lieu que l'on parle d'une quelconque rationalité politique en ce qui concerne les choix que le FCC devrait opérer à ce jour. Nous sommes en train d'exécuter la Constitution nous léguée par ce même FCC à la lettre. Il n'y a donc aucune violation possible.
Merci.
Est-ce que le président de la République devrait être comptable? Oui, je suis d'accord avec Maître Francis Kalombo. Le président de la République sera comptable de sa gestion. C'est pourquoi il n'a pas intérêt à transiger avec la complaisance. Lorsqu'il y a lieu de jouir de ses prérogatives constitutionnelles pour assurer et assumer son pouvoir, il doit le faire. Et il n'y a pas de distraction possible à s'offrir à ce niveau. Bien évidemment que notre peuple a constaté ce qui s'est passé. De réalité étrange, comme on l'a dit tantôt, la pandémie elle est passée par là. Mais c'est une économie qui a su résister par rapport à cette ingéniosité d'un Tshisekedi aguerri. Les Congolais n'ont pas trop senti le choc par rapport à ce qui devrait arriver, mais aussi se pesantèrent d'un allié gênant qui avait pour projet de société
barricader tous les projets.
Merci, M. Tshilumbayi. Merci beaucoup, M. Tshilumbayi. Monsieur Kodjo Doukouma, M. Tshilumbayi a balayé très rapidement les critiques de Martin Fayoulou sur la trop grande immixtion des États-Unis, selon lui, dans la politique congolaise. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de Martin Fayoulou? Comment appliquer son propre programme s'il est dicté par une puissance étrangère?
Bon, on ne découvre pas la couronne. C'est vrai qu'il y a eu un accompagnement assez proéminent d'une certaine chancellerie dans les différents événements qui ont amené à la situation de changement d'alliance et de reconfiguration de majorité.
Ce sont bien les États-Unis, même si vous n'avez pas souhaité mentionner, ce sont bien les États-Unis.
Oui, je reste quand même républicain. Bon, on découvre pas la couronne. Mais l'essentiel de ce que Martin Fayoulou a dit, et dont je vois Maître Francis Kalombo se désolidariser, je m'étonne, ils étaient ensemble chez la Mouka, va se concrétiser en 2023. Il faut compter déjà les 2 ans dans le mandat du président Tshisekedi, passé avec le FCC et le CASH. Ensuite, il faudra compter les 2 ans ou 3 ans qui nous restent. Il sera comptable pour l'ensemble. La vraie bataille et la vraie vérité sera en 2023, comme la Belgique l'a rappelé. Il ne faut pas qu'avec tout ce qu'il y a eu comme travail politique interne dans le pays, on puisse repousser les échéances des élections. On verra bien si hier, FCC CASH, ça faisait 2, demain, UDPS, UNC, les transfuges du FCC, le MLC, et ensemble, ça fera 1. On aura en 2023 une situation où les différents coalisés qui sont plus nombreux aujourd'hui que dans la coalition FCC-CASH, et on aura une situation que ceux qui sont plus nombreux iront probablement en ordre dispersé, dans un contexte où le président Félix aura un bilan à supporter tout seul.
Merci.
Et donc nous, je finis par là, nous demandions d'ailleurs, dans le cadre du FCC, des élections anticipées au besoin, mais la vraie ligne de vérité, la vraie échéance de vérité sera 2023,
merci
par rapport
beaucoup
à un bilan et par rapport à une sanction de la population sur le porteur de ce bilan.
Fred Boma, sur cette intrusion supposée des États-Unis ou des puissances étrangères, est-ce qu'elle ne risque pas, si c'est vraiment le cas, d'être aussi un obstacle à la mise en route de la vision du président Tshisekedi? Fred Boma, rapidement s'il vous plaît.
Oui. Je ne suis pas sûr à quel degré ça pourrait être un obstacle. Je pense que pour l'instant, ça l'a plutôt aidé. Mais je pense que... Et je pense que le contexte était différent, évidemment. Le président Tshisekedi, lorsqu'il...
Quand vous dites ça l'a aidé, c'est-à-dire vous estimez aussi, comme Martin Fayoulou, qu'il y a une trop grande implication, une intrusion même de cette puissance étrangère et d'autres dans la politique congolaise?
Non, ce que je dis, c'est que lorsque le président Félix est arrivé au pouvoir, il manquait profondément de légitimité interne et je pense qu'il s'est beaucoup appuyé sur la légitimité des partenaires étrangers, notamment des États-Unis, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Maintenant, je crois que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il dépende beaucoup plus des institutions congolaises, qu'il dépende beaucoup plus qu'il écoute beaucoup plus la société civile et d'autres forces vives et qu'il délivre un programme finalement qui lui aura proposé les Congolais plutôt que des pays étrangers, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine. Et je pense que c'est ça le sens de notre... d'un État souverain, c'est pas le sens d'un Congo indépendant.
Merci beaucoup. Monsieur Kalombo, comment le président Tshisekedi pourrait-il s'affranchir de toutes ces puissances et pouvoir implémenter son programme au moment où même certains doutent de la solidité de l'Union sacrée?
Ben écoutez, la solidité de l'Union sacrée, c'est vrai, on peut mettre ça en doute. Ça dépendra, comme j'ai dit tout à l'heure, de la volonté des uns et des autres pour cheminer ensemble afin de pouvoir avoir
résoudre le problème de Congolais. C'est ça, en fait, l'objectif final. Un état des droits, la résolution du problème de Congolais. Et je pense que le professeur Kodjo est d'ailleurs très content, puisqu'ils vont faire aujourd'hui une opposition 5 étoiles, sans bombe lacrymogène, sans rien. Donc ils seront à l'aise, d'ailleurs, ils auront la possibilité d'avoir un porte-parole de l'opposition, chose qu'eux ont toujours refusé de pouvoir mettre en place la République.
Et maintenant, sur ma question, s'il vous plaît, comment s'affranchir de toutes les pressions extérieures, notamment pour pouvoir être plus autonome et avoir la marge de manœuvre et les mains libres?
Mais j'en arrive. Je crois que le président Félix est autonome. Hein. Il est libre. Hein. Il n'appelle, il n'agit pas par rapport à ses influences. Moi, qui apprend l'histoire politique, qui enseigne l'histoire politique du Congo à l'université, je rappelle aux uns et aux autres, la première personne à appeler Joseph Kabila président de la République, c'était l'ambassadeur justement américain lorsqu'il va voir le président Joseph Kabila. À l'époque, il n'était que coordonnateur du gouvernement. À la sortie, il dit « Je viens de croiser le président de la République ». Donc, et là, lui, Michel, a tout de suite surenchéri. Donc, c'est normal que les gens cherchent à écouter beaucoup plus la communauté internationale, contrairement aux Congolais qui sont ici. Félix, je ne crois pas qu'il y a la même mise de l'étranger sur sa politique ou sur sa manière de conduire.
Merci.
S'ils ont, ils le soutiennent, ils disent bien bravo, mais je ne crois pas. Je pense que la première des choses, il doit compter sur le Congolais. Aujourd'hui, le FCC est impopulaire. Martin Fayoul a aidé, donc on ne rentre pas là-dedans. Je crois qu'il n'est pas sous influence de la communauté internationale.
Merci beaucoup. Et selon vous, il a les mains libres pour pouvoir conduire la RDC et mettre en œuvre sa vision pour son pays. Francis Kalombo, merci beaucoup, député honoraire et porte-parole de Moïse Katumbi. Vous étiez à Kinshasa. Merci à vous, professeur Jean-Claude Tshilumbayi, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, Kodjo Ndoukouma, cadre du FCC, et Fred Boma, militant de la Lucha. C'est la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci de l'avoir suivi.